Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
9h sur RTL, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et force est de constater que Valérie ne nous a pas parlé de ce vent qui souffle, ce vent de liberté.
Ça y est, premier week-end durant lequel il est possible de se déplacer partout en France sans aucune limite et surtout aucune attestation. Fini la règle des 10 km. En revanche, attention, le couvre-feu, lui, reste toujours en vigueur. Visiblement, vous étiez nombreux à vouloir profiter de cet assouplissement, témoigne le retour des bouchons à la sortie de Paris hier soir, plus de 300 km. Et puis, il y a un autre signe qui ne trompe pas, le nombre de réservations qui s'envolent littéralement, à commencer par le week-end de l'Ascension qui débute jeudi prochain. Sur l'île de Ré, les professionnels du tourisme sont dans les starting blocks de Denis Grandjou.
Oui, Frédéric Mercier gère un hôtel à Bois-Plage avec son épouse et ses enfants. Depuis quelques jours, le taux de réservation de son établissement monte en flèche et le téléphone sonne sans cesse.
Quel que soit le temps, à la rigueur, les gens veulent venir.
En clair, les 2350 lits d'hôtellerie vont être pris d'assaut sur l'île de Ré. Une tendance, on l'imagine, forcément positive pour les professionnels.
C'est même plutôt extraordinaire. Les gens, on sent qu'il y a vraiment cette envie de changer d'air, de revivre.
Les loueurs de vélos sont prêts aussi à se lancer dans le sprint sur les 110 km de pistes cyclables de l'île de Ré qui vont forcément eux aussi être largement empruntés.
On est tous impatients parce que là, on n'a pas travaillé depuis quelques mois. Donc, on s'est préparé à travailler et on attend tout le monde. Donc, on est vraiment content de reprendre, ça, c'est sûr.
Pour les campings, même prévision optimiste et Johan a le sourire.
On sera complet à l'Ascension déjà, au point de vue mobilhome. Et après, je pense que ça sera de la dernière minute pour les emplacements camping. Je pense que ça va être le gros rush, oui. Mais ça fait un bien fou.
On s'attend même sur l'île de Ré à ce que le record de fréquentation sur une seule journée soit battu durant les prochains week-ends. Il est à ce jour de 64 000 passages d'automobiles recensés sur le magnifique pont de l'île de Ré. C'était en 2019.
Le reportage de Denis Grandjou pour RTL.
Alors si on n'en est pas encore à pouvoir profiter de la réouverture des terrasses comme nos amis belges, à partir d'aujourd'hui, il y a quand même des nouvelles qui font du bien.
Le secteur du BTP est optimiste. Cela se traduit en chiffres, selon Pôle emploi. Les intentions d'embauche progressent de 30 000 par rapport à 2019. L'année 2020 a bien sûr été laissée de côté, vu le contexte sanitaire. Ces intentions d'embauche ne sont pas que des promesses. Les recrutements ont déjà commencé. En Seine-Saint-Denis, par exemple, on a besoin de main-d'œuvre en vue des JO de 2024, Pierre Collat.
À 22 ans, André est alternant dans une entreprise de BTP et l'an dernier, il a eu peur pour son avenir.
Après le premier confinement, on avait pas mal d'entreprises du BTP qui déposaient le bilan, etc. Donc nous, en tant que jeunes, on ne savait pas si on avait une place assurée à l'issue du diplôme, quoi.
Finalement, André profite de la relance du secteur de la construction et c'est confirmé, il signera son CDI à la fin de son alternance dans 3 mois.
Oui, c'est une très bonne nouvelle. Je suis pressé, motivé pour vraiment entrer dans la vraie vie active et pouvoir continuer dans cette lancée.
Francis Dubrac est le patron d'André. Dans son entreprise de 400 salariés, il sent un net nouvel élan de l'activité depuis le début du printemps.
C'est à partir de mars où on a commencé à avoir l'embellie. Les crédits étant là, la machine repart. On retourne sur l'embauche, on retourne sur le rappel des gens qu'on avait promis d'embaucher, qu'on n'avait pas embauché à cause de ces vagues successives.
Et s'il n'y a pas de nouvelles vagues épidémiques accompagnées d'un confinement, Francis l'affirme, il aura encore besoin de recruter essentiellement des chefs de chantier.
Le reportage de Pierre Collat pour RTL. À partir de ce soir, minuit, le gouvernement élargit la liste des pays pour lesquels les mesures aux frontières sont renforcées. Désormais, une quarantaine obligatoire sera imposée à tous les passagers revenant également du Bangladesh, du Népal, des Émirats Arabes Unis ou encore du Qatar et de la Turquie.
9h04 en ce samedi matin à Avignon, le meurtrier du policier est toujours en fuite ce matin.
De très gros moyens sont déployés pour retrouver celui qui a abattu Éric Masson, 36 ans. Une deuxième personne est également recherchée. Elle aussi était sur place au moment du drame. L'indignation, la colère, tous les policiers de France expriment leur soutien. Il y a aussi ces nombreux anonymes qui se recueillent à l'endroit même où ce père de famille a été tué mardi, Frédéric Perruche.
Une rose à la main pour l'une, un bouquet pour l'autre. Jacqueline et Marie-Claire, deux cousines avignonnaises, sont venues rendre un dernier hommage au brigadier Éric Masson.
Ils sont là pour veiller sur nous et ils se font tuer. Ça me fait mal au cœur, quoi. J'ai de la peine. Puis de savoir qu'ils sont dans la peine, et ben on les soutient.
On les soutient, on est de tout cœur avec eux. Voilà, il y avait une famille, une femme, des enfants, il y avait ses frères du travail. C'est très triste.
Devant l'hôtel de police, des dizaines de fleurs, de bouquets, de couronnes jonchent le sol. Autant de témoignages de soutiens anonymes aux policiers tués et à sa famille.
Moi, j'ai été très touché par cette tuerie, malheureusement, de ce garçon de 36 ans. Mon fils, il est à Arles, lui, il est policier. Donc, automatiquement, je suis touché aussi. Voilà, parce qu'en plus, un papa, un jeune papa de 36 ans, que ses deux enfants perdent leur papa et cette dame aussi, cette femme. Voilà, je pense beaucoup à eux surtout. Et puis j'espère que justice sera rendue surtout.
Un hommage public aura lieu demain à l'appel de tous les syndicats de police en début d'après-midi.
Frédéric Perruche à Avignon pour RTL. Je n'aurai pas la main qui tremble, déclaration du garde des Sceaux concernant cette fois le drame de Mérignac en Gironde. Cette mère de famille assassinée, brûlée vive par son mari, déjà condamné et incarcéré pour violence conjugale, Éric Dupond-Moretti promet qu'il rappellera aux magistrats que les bracelets anti-rapprochement, je cite, n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs.
Le ministre de la Justice qui, par ailleurs, Agnès, officialise sa candidature dans les Hauts-de-France aux prochaines régionales.
Oui, il ne sera pas tête de liste, mais conduira la liste départementale dans le Pas-de-Calais face à Marine Le Pen. Et c'est visiblement sa première adversaire, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, d'abord, Éric Dupond-Moretti annonce qu'il veut croiser le fer avec Marine Le Pen. C'est le sens de son engagement dans le Pas-de-Calais. La présidente du RN est députée de ce département. Elle y est aussi candidate au cantonal. Et il la provoque verbalement. Puisqu'elle ne veut pas débattre avec lui, qu'à cela ne tienne, il vient à elle jusqu'à Hénin-Beaumont s'il le faut. Éric Dupond-Moretti tente de regonfler les sondages de son collègue Laurent Pietraszewski, la tête de liste LREM pour les régionales. Ça, c'est la première lame. La seconde vise à briser l'élan du président de région sortant, Xavier Bertrand, en l'accusant de vouloir faire de la région son marchepied pour une candidature à la présidentielle. S'il remporte la présidence du Conseil régional, il l'abandonnera pour la présidence de la République et s'il la perd, il abandonnera la vie politique, souligne Éric Dupond-Moretti, en mission pour le chef de l'État. Car derrière la campagne des régionales, c'est celle de la présidentielle qui s'enclenche déjà.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
Vous restez bien là dans un instant. Agnès Bonfillon revient pour vous informer avec un retour sur les violences qui ont éclaté à Jérusalem hier soir, faisant au moins 180 blessés. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
À mes côtés, Agnès Bonfillon pour toute l'actualité. Et donc, Jérusalem, le dernier bilan des heurts qui ont eu lieu hier est de 180 blessés.
Manifestants palestiniens et forces de l'ordre se sont affrontés sur l'esplanade des mosquées. Bonjour Bénédicte Assar.
Bonjour.
Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel déchaînement de violence dans ce lieu saint.
Oui, les forces de l'ordre israéliennes ont dispersé des dizaines de milliers de fidèles en tirant des balles de métal cernées de caoutchouc, en lançant également des grenades assourdissantes. L'une d'entre elles a même été retrouvée à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa. Les haut-parleurs de la mosquée incitaient les plus jeunes à la dispersion. Les Israéliens affirment avoir riposté à des jets de pierres et de bouteilles de la part de plusieurs milliers d'émeutiers. Pendant cette dernière grande prière du vendredi du mois saint, les Palestiniens voulaient également protester contre la menace d'expulsion par la justice israélienne de quelques familles au profit de colons juifs. C'est un dossier qui suscite des tensions depuis plusieurs semaines déjà. Jérusalem-Est est un secteur palestinien occupé, annexé par Israël. Et hier encore, l'ONU affichait sa préoccupation, évoquant de possibles crimes de guerre si Israël ne met pas fin à ses expulsions forcées.
Merci beaucoup, Bénédicte Tassard du service étranger de RTL. A priori, aucune raison de s'inquiéter. C'est Pékin qui le dit. Il y a peu de risques que les débris d'une fusée chinoise, attendue la nuit prochaine, tombent sur une zone habitée. C'est tant mieux, car ce sont quand même 2 tonnes qui devraient atterrir sur Terre.
Les sports et le football avec des Lillois qui tracent leur route.
Un ch'ti pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Les Dogues n'ont laissé aucune chance à Lens hier soir lors de la 36e journée de Ligue 1. 3-0, voilà pour le score final. Il va falloir tenir cette ligne de conduite puisqu'il reste encore 2 matchs avant la fin du championnat. Mais hier, après la rencontre, l'heure était à la satisfaction, y compris du côté de l'entraîneur Christophe Galtier.
C'est une grande performance. Tout d'abord, elle est pour nos supporters. Je veux et on veut leur dédier cette victoire. On sait que c'est important pour eux. C'était un match important pour la course au titre. Le scénario nous a été évidemment très favorable avec l'ouverture du score très rapide, notre supériorité numérique, le fait de mener 2-0 à la pause. Automatiquement, c'est une très belle victoire comme on le fait depuis pas mal de semaines, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de concentration. Je trouve que mes joueurs sont depuis quelques semaines très alignés dans les séances d'entraînement, très alignés dans les préparations de match. Il faut qu'il n'y ait pas de relâchement, pas de nervosité et garder toujours cette humilité qui nous caractérise.
Christophe Galtier avec Samuel Duhamel pour RTL. Concernant la 36e journée de Ligue 1, deux matchs au programme aujourd'hui. Lyon, Lorient à 17h et avant Nantes-Bordeaux, ce sera à 13h. Le PSG, lui, jouera demain à Rennes. L'occasion de vous dire que Neymar devrait prolonger son contrat avec le club parisien jusqu'en 2026. Il doit signer aujourd'hui, selon nos confrères de l'Équipe. L'actualité du ballon rond, il en sera question comme tous les week-ends, on refait le match entre 18h30 et 20h, puis RTL Foot entre 20h et 23h. Une grande première pour Laurent Bardet. Le cycliste français participe au Giro, première épreuve du Tour d'Italie ce matin avec un contre-la-montre à Turin.
Laurent Bardet, je ne le connais pas, mais Romain Bardet, je le connais.
Lui. Bah, ça, moi aussi, du... Romain, je le connais.
Hein, Romain, c'est lui qui participe au Giro.
C'est pour voir si
Giro.
Vous suiviez.
Eh ben, je suis, figurez-vous. On parlait du premier week-end sans attestation au-delà des 10 km. Agnès, autre petit plus pour rendre la vie plus douce.
Oui, on en a besoin, surtout dans cette matinale. Depuis ce matin, réouverture des parcs et jardins. L'occasion de découvrir des domaines comme celui de Chaumont-sur-Loise qui s'étend sur plus de 200 hectares. Une parenthèse bucolique que vous nous faites partager, Christian Panvert.
Un vent de liberté souffle sur le parc. Les premiers visiteurs découvrent les 36 nouveaux jardins créés sur le thème du biomimétisme. Sébastien et Octavie mesurent leur chance d'être là.
On a tous envie de revivre comme avant. Mais déjà, pouvoir ressortir et avoir un peu plus de liberté, c'est déjà beaucoup.
C'est la première fois qu'on sort depuis très longtemps. Il faut en profiter.
Lison est émerveillée par tant de beauté.
Avant, on devait rester confiné, puis on ne pouvait pas voir ses odeurs et ses couleurs. Quand on revient ici, du coup, ça fait du bien.
Son jardin préféré ?
Le magicien.
Le jardin caméléon, précisément, créé par Mathieu Mallet, magicien, et Loïc Delarmina, paysagiste.
On a une confusion qui s'opère entre ce qui est parfois des miroirs et ce qui est parfois des vitres. Suite au jeu de symétrie qu'il y a au niveau des plantations, on ne sait pas trop si ce qu'on voit est à travers la vitre ou le reflet du miroir.
Durant toute la visite, le parfum des fleurs se glisse sous les masques. Chantal Collot-Dumont, directrice du site.
Chaumont, c'est l'antidote idéal dans cette période de grisaille, de tristesse, d'angoisse. Ici, on est dans le vert, on est dans l'air pur, on est dans l'art, on est dans l'oubli. Et Chaumont nous permettra de nous soigner.
Le parc ouvre ses portes ce matin.
Parc de Chaumont-sur-Loire, reportage de Christian Panvert. Le parc de Chaumont-sur-Loire qui fait 32 hectares, c'est déjà pas si mal.
Pour être tout à fait précis, comme vous aimez l'être, Agnès Bonfillon, merci à vous, l'appli RTL pour toute l'actualité.